Le magazine d'actualité, bonjour à toutes et à tous, bonjour tout le monde, bienvenue si vous venez de nous rejoindre, et un mag en deux temps, comme tous les jeudis, on reprend nos bonnes habitudes en ce début d'année 2026, avec notamment notre partenaire historique, vous êtes le dinosaure
historique,
meilleurs vœux Eric, santé, bonheur, humeur, on reprend notre activité du jeudi avec un tour d'horizon des titres dans l'actualité à l'occasion de la parution du jour de notre hebdomadaire. Et tout à l'heure, on va s'intéresser à la première conférence de ce début d'année proposée par l'USP, Terrorisme du traumatisme à la résilience, conférence qui sera donnée par Jacques Dayan vendredi prochain au cinéma Vox Azur de Villefranche, 18h30. C'est l'horaire indiqué. Mais ça, on en parle tout à l'heure avec Jean-François Demonet, professeur Jean-François Demonet de l'Université des Savoirs Partagés. Pour l'instant, la revue de titres, on commence avec l'info politique de la semaine. Ça va monter en puissance.
Eh oui, l'année commence avec une information politique, puisque Jean-Sébastien Orcibal a présenté la moitié de sa liste, dévoilé la moitié de sa liste, à savoir
les sortants.
Ouais. Voilà, tous les sortants qui ont décidé de se représenter cette fois-ci. Alors, ils sont au nombre de 17, hein, tout de même. Ouais. Donc, voilà, sur une liste qui en compte 33. Hein, voilà, donc.
La moitié.
La moitié est repartie. Tous les adjoints sont repartis. Ceux qui n'ont pas souhaité renouveler l'aventure, eh bien, ils le font pour des raisons personnelles qui sont souvent liées à des déménagements ou de la mobilité pour professionnelle. Il estime, Jean-Sébastien Orcibal estime que l'ambiance a été bonne tout au long de ce mandat et que tout s'est bien passé. C'est d'ailleurs ce qu'ont confirmé tour à tour les adjoints qui ont décidé de repartir, soulignant l'esprit de travail qui règne au sein de l'équipe et la bonne ambiance. Donc, vous découvrirez bien sûr les noms et les motivations de ces élus qui repartent donc pour un deuxième mandat, un mandat qui, pour la liste Ozon pour Villefranche, est synonyme de transformation d'essai, estimant que le premier mandat n'a pas suffi à réaliser l'ensemble des missions qu'il s'était fixé, et donc Ozon pour Villefranche réclame les suffrages des Villefranchois pour poursuivre le travail entamé.
C'est l'heure du titre, on poursuit avec la chronique de la semaine.
Et oui, municipal oblige, nous lançons une chronique qui cette fois va s'intéresser à l'histoire de la représentation des Villefranchois. Une histoire qui démarre avec la création de la Bastide, hein, et la manière dont était organisée la gestion de la ville au Moyen-Âge, avec notamment les consuls. C'est ce premier volet de cette série que nous ouvrons. Laurent Barthes s'est penché sur la question, et cela va nous permettre au fil du temps de découvrir comment était administrée la ville, bien sûr, mais par qui. Il y aura quelques grandes figures qui vont apparaître au cours de cette série.
Allez, un peu de polémique pour bien démarrer l'année.
Et oui, polémique autour de l'appellation des châteaux cathares. Ouais. Vous savez que c'est un emblème un petit peu totémique de l'Occitanie, hein, ces châteaux cathares. Et malheureusement, la direction des affaires culturelles et les grands organismes qui organisent la culture et l'histoire au niveau national ont décidé de petit à petit, hein, subrepticement, remplacer l'appellation de château cathare par forteresse royale du Languedoc. Autrement dit, ça n'est pas du tout le même sens, d'autant qu'il s'agit ni plus ni moins qu'un rapt, une appropriation historique, hein, puisque ces châteaux ont bien été édifiés par les cathares, en tout cas pour une bonne part. Certains ont été détruits puis reconstruits par le pouvoir royal, mais de là à s'arroger le titre de forteresse royale du Languedoc, C'est fort de café. En tout cas, c'est quelque chose qui est resté en travers de notre chroniqueur Pascal Cazotte, qui monte au créneau pour défendre les châteaux cathares et partir en croisade contre cette façon de s'approprier l'histoire de l'Occitanie.
C'est la revue de titre L'Essentiel de l'actualité, présentée par Éric Lachemont, chef d'édition, journaliste au Villefranchois. On poursuit avec la passion de la semaine.
La passion de la semaine, c'est celle des vieux appareils photo. C'est un Villefranchois octogénaire qui possède 450 appareils photographiques anciens, tous fonctionnels. Et il était photographe professionnel, hein, mais à la retraite, il s'est découvert une passion pour les vieux appareils et il a ainsi accumulé cette magnifique collection. Alors, il souhaite garder l'anonymat, malheureusement, puisque vous savez que ce genre d'appareil peut représenter une certaine valeur et il craint un petit peu les cambriolages. T'es d'ailleurs, comment appelle-t-on la collection d'appareils photo,
question,
hein, question à 100 euros? Eh bien, c'est l'icono-mécanophilie. Voilà.
L'icono-mécanophilie.
Voilà, wow. Ben, on commence l'année en apprenant un mot. C'est pas si mal. L'icono-mécanophilie.
Allez, on poursuit la revue de titre avec la rétrospective de la semaine.
Et oui, nous avons confié une page notre dessinateur Bobica.
Ah, c'était succulent, hein, la semaine dernière,
mais on le met en vedette un petit peu parce qu'il a vraiment beaucoup de talent. Ouais. Et vous verrez qu'il a croqué l'année 2025 avec les grandes étapes de l'actualité, toujours avec humour et un petit peu de vitriol aussi pour pimenter un peu l'actualité. Donc c'est une page collector que vous trouverez dans notre édition.
Comment ça, il n'est pas frais mon programme? Allez, on poursuit avec un petit tour du côté des sorties.
Alors du côté des sorties, on vous invite au théâtre vendredi à 20h30 avec le Japon. Chapeiron, c'est un groupe de théâtre occitan qui présentera L'eau sorcière repentite de Frédéric Quéron.
Trois compagnies, trois représentations,
ouais,
je crois.
Ça a l'air très chouette. Voilà, donc à découvrir au théâtre ce vendredi. Il y a également un bal traditionnel à Vaillourle. C'est Trad Folk en Villefranchois qui propose ce bal à 21h à la salle des fêtes de Vaillourle. Vous découvrirez la programmation et l'affiche. Ça a l'air sympa aussi. Il y a également des thés dansants, une soirée cabaret au petit cabaret. Ça passe à Beauregard. C'est une soirée cinéma avec un pot-au-feu.
Ah ouais,
C'est original. On peut manger un pot-au-feu avant de faire sa petite séance. Et également des expositions. Il y a toujours l'exposition avec les photographies de Sylvie Bosque sur la prise d'image de Yann Arthus Bertrand dans le cadre de son opération mené à Villefranche et dans le cadre de France, un album de famille. Puis bien sûr, des concours de belote et autres réjouissances hivernales.
Les titres présentés sont développés dans l'apparition du jour de notre hebdomadaire Le Villefranchois, avec d'autres, et l'intervention sous peu en podcast sur le site cfmradio.fr. On va s'intéresser, nous, pour cette deuxième partie d'édition du magazine d'actualité, à la première conférence de l'année de l'Université des Savoirs Partagés. Donc, terrorisme, du traumatisme à la résilience, conférence de Jacques Dayan. Et on va en parler avec le professeur Jean-François Demonet, membre de l'USP, conférence qui se tiendra vendredi prochain, le 16 janvier à 18h30 au cinéma Vox de Villefranche. Merci Eric, belle journée, excellente semaine, encore une fois belle année, mes vœux chaleureux et fournis et nourris.
Meilleurs vœux aussi à tous nos auditeurs et à tous nos lecteurs. Bonne année.
CFM Villefranche, le mag. Everybody goes to be alone.
where you won't see any rising sun. Down to the river we will run. When by the water we drink to the trees, look at the stones on the river bed. I can tell from your eyes you never been by the riverside. Down by the water, the river bed, somebody calls you, somebody says, swim with the current and float away. Down by the river every day. Oh my God, I see how everything is torn.
CFM Villefranche, le mag.
Vous venez de nous rejoindre, magazine d'actualité avec en studio, comme annoncé, Jean-François Demonet. Bonjour Monsieur Demonet.
Bonjour.
Professeur, médecin, docteur Demonet, neurologue en neurosciences cognitives, professeur honoraire à l'Université de Lausanne et directeur de recherche émérite à l'INSERM, l'INSERM pour tout le monde, Institut National de la Santé, de la Recherche Médicale, fonction qui a toute son importance aujourd'hui pour cette intervention autour de la première conférence de l'année proposée par l'Université des Savoirs Partagés, dont vous êtes membre depuis quelques mois maintenant, on peut dire, et vous apportez votre pierre à l'édifice, puisque la remarque que je faisais à Monique Cachia, présidente de l'association, c'est que j'avais la sensation qu'il y a un petit peu plus de science et de recherche dans le programme de l'université. On vous doit, il faut bien le dire, ces propositions, et vous mettez à disposition votre réseau, hein, Jean-François Demonet.
Et avec l'assentiment de tous mes collègues et amis de l'Université des Savoirs Partagés, hein, bien sûr.
Bien sûr, bien sûr, bien sûr.
L'élaboration du programme est une œuvre collective.
Terrorisme, du traumatisme à la résilience, c'est l'intitulé de cette conférence qui sera donnée la semaine prochaine, le vendredi 16 janvier à 18h30, dans le confort du cinéma Vox Azur de Villefranche de Rouergue. Changement de programme, sensiblement.
Absolument. Malheureusement, le cinéma n'était pas disponible.
Oui.
Et nous avons, nous sommes déplacés, nous nous déplacerons à cette occasion dans l'amphithéâtre du lycée Beauregard.
Est-ce qu'on peut dire malheureusement, vraiment, parce que vous êtes tenu à des horaires au Cinéma Vox de Villefranche et qu'à un moment, il faut s'arrêter parce que vous êtes tenu par des horaires et qu'au théâtre municipal, bah, si le conférencier a le goût et l'envie de prolonger, c'est possible. Et peut-être que ça sera ouvert également au lycée Beauregard. Donc malheureusement, je serais tenté de dire, d'être modéré sur le malheureusement.
Non, c'était dans la communication parce que pour des raisons diverses, l'information n'a pas forcément circulé de manière aussi correcte et fluide qu'elle n'aurait dû. Mais voilà, donc je le répète, la conférence aura lieu au lycée Beauregard, au même horaire, à 18h30, le vendredi, et non pas les mardis comme d'habitude, c'est un vendredi 16 janvier.
On saura le redire sur l'antenne la semaine prochaine et peu de temps avant cette conférence. Donc, lycée Beauregard, amphithéâtre du lycée Beauregard, 18h30. Et j'imagine que des membres de l'USP seront au cinéma pour réfléchir le public au lycée Beauregard. Je faisais le lien entre cette conférence et vos fonctions de directeur de recherche émérite à l'INSERM, puisque vous avez été nommé membre du conseil scientifique par la direction de l'INSERM en 2016. Et aujourd'hui, vous assumez la présidence du Conseil scientifique international depuis 2018 d'un programme, programme 13 novembre, CNRS et INSERM. C'est quoi et en quoi il consiste et d'où il est parti?
Donc en fait, c'est l'initiative de mes deux collègues et amis Denis Péchanski et Francis Eustache qui, dans les suites immédiates de ces attentats horribles qui ont ensanglanté les rues de Paris donc le 13 novembre 2015, ont décidé de tenter leur chance auprès du gouvernement de l'époque pour montrer comment il était capital de lancer une vaste étude scientifique qui est en fait devenue un programme, c'est-à-dire que dans ce programme, il y a de nombreuses études à l'intérieur, pour tenter d'aider d'abord, bien sûr, à soutenir et à comprendre ce dont souffrent les victimes de ces attentats avec 150 morts et de très nombreux blessés, à la fois directs et indirects, des blessés physiques mais aussi psychologiques. Et donc il s'est agi de mettre en place une étude qui permette d'étudier sur le long terme, ça c'est capital, c'est-à-dire sur 12 ans, successivement, par phases successives, la mémoire de ces personnes, leur état psychologique et physique, leur état, je dirais, cérébral, puisqu'il y a une petite partie qui concerne de l'imagerie cérébrale, et pour l'essentiel, à travers des interviews, à travers des enquêtes, d'étudier en quoi consiste ce fameux syndrome de stress post-traumatique, et qu'est-ce qui le détermine? Comment est-ce qu'on peut en guérir? Comment est-ce qu'on peut hâter cette guérison? Et c'est tout cela dont viendra parler donc au cours de la conférence chez nous à l'USP le 16 janvier, le professeur Jacques Dayan, qui, je dirais, lui est le psychiatre de l'équipe, qui est un spécialiste du psychotrauma, du traumatisme psychologique, et qui viendra nous expliquer donc en quoi consiste le syndrome de stress post-traumatique, comment on peut le diagnostiquer, comment on peut le traiter et aider les patients à s'en sortir dans les meilleures conditions possibles.
Programme 13 novembre, on peut parler d'un programme scientifique exceptionnel, unique hein, même, je crois que...
Oui, c'est unique au monde.
Oui, faut le dire.
Absolument. C'est, tout le mérite d'ailleurs du gouvernement français hein, qui avait lancé vraiment très spécialement et en dehors des cadres classiques cette opération de grande envergure qui a été, disons, confortablement financée.
Enveloppe de 24 millions d'euros, on peut le dire. Hein.
Donc, qui est un financement qui peut paraître important, mais qui correspond à peu près au coût nécessaire à engager pour une étude de cette ampleur qui recouvre, disons, le suivi de plus de 1000 personnes de manière longitudinale et sur 12 ans.
Voilà, longitudinale, c'est ce qu'on entend. Et puis, vous êtes l'audateur de ce programme, vous faites l'éloge de ce programme
oui, parce
13
qu'il est,
novembre.
Il est exceptionnel, et pour donner un exemple, par exemple, des études scientifiques ont été lancées après la catastrophe et les attentats de New York du 9 septembre.
Oui,
Bien sûr, c'est aux États-Unis, à New York, donc on peut supposer qu'il y avait une autre ampleur que cela. Eh bien, ce n'est pas le cas, en fait. C'est une étude importante, mais qui n'a pas eu ce caractère, je dirais, multidisciplinaire, qui est exceptionnel. Et aussi longitudinale.
Il est utile de rappeler que donc, c'est une initiative et une demande de la communauté scientifique hein, qui a été relayée ensuite par les politiques sous la présidence de François Hollande. Et donc c'est Emmanuel Valls qui a donné son accord sur cette enveloppe et puis ce programme d'exception est unique, encore une fois, on peut en parler. Qui repose sur deux protocoles. J'ai cru voir quelque part l'étude 1000 et l'étude Remember. Ouais. Si on avait en parlé un petit peu plus.
Ce sont les deux volets les plus importants, mais il y a d'autres volets également.
C'est très vaste.
Mais disons, l'étude 1000, ça consiste en des interviews face caméra, donc audio-vidéo.
Avec la complicité de l'Institut National de l'Audiovisuel, l'INA.
Absolument, qui assure l'archivage et la gestion de ces archives exceptionnelles. Donc ce sont des personnes volontaires, bien entendu, hein, qui ont accepté de venir témoigner et de répondre à un questionnaire bien structuré, qui leur était proposé à intervalles réguliers, donc 3 à 4 ans d'intervalle à chaque fois. Et donc parmi, disons, les personnes interviewées, il y avait par exemple le président de la République ou la maire de Paris pour recueillir donc, les façons dont ils ont appris, évidemment, les attentats et quelles ont été les réactions mises en place, les décisions prises. Immédiatement, à chaud, et puis quel souvenir ils gardent de cette période tragique.
Énormément de productions durant ces 10 ans, oui. Un film documentaire, des thèses, plus d'une vingtaine de thèses, je crois avoir lu, peut-être plus encore, oui. Pardon, une exposition à Paris, et le 6 octobre à Caen, vous y étiez, je crois, Jean-François de Monnet, si vous pouvez nous parler de cette journée un petit peu spéciale, où des résultats, les premiers résultats des trois premières phases, en fait, du programme, était présenté au public.
Alors, non seulement au public, mais je dirais peut-être surtout aux personnes victimes, à certaines d'entre elles, celles qui ont bien voulu, en tout cas, venir se joindre à nous, parce qu'il y a un devoir, si vous voulez, des scientifiques, lorsque nous réalisons une étude, c'est d'informer les personnes qui se sont prêtées à cette étude.
Une soirée bilan pour faire le point sur ces 10 ans de collectage.
Donc il faisait le bilan et on présentait à toutes ces personnes qui avaient bien voulu participer, et donner de leur temps, je dirais presque de leur corps, puisque quand on rentre dans une IRM pour faire des expériences comme ça, on donne aussi de sa personne, vraiment, pour leur présenter les résultats. Voilà, et quels sont les résultats qui ont pu être obtenus à travers ces différentes expériences et études auxquelles ils ont bien voulu participer.
C'est une réelle avancée, ces résultats. C'est la première fois qu'on obtient ce genre de données. Oui. Quels sont les résultats peut-être les plus marquants de ces études ?
Parmi, disons, les études épidémiologiques, puisqu'on citait l'étude 1000, mais il y en a d'autres, on a pu mettre en évidence, par exemple, que les femmes et les hommes n'emploient pas les mêmes mots pour parler des traumatismes pourtant identiques qu'ils ont subis. On peut dire aussi qu'en fonction de son arrière-plan, de son passé, la façon d'en parler, mais surtout la façon dont on ressent le traumatisme, son souvenir et éventuellement le syndrome de stress post-traumatique est plus fréquent chez des gens qui sont moins éduqués, qui ont eu dans leur passé déjà des traumatismes, qui avaient des difficultés de vie diverses et variées, de type économique ou sociaux ou médical ou autre. Donc il y a une fragilité particulière à différentes dimensions qui prédispose, en somme, au syndrome de stress post-traumatique. Et j'ajoute aussi que ce n'est pas parce qu'on est, je dirais, quelqu'un de, a priori, fort et puissant, comme un policier ou un pompier qui intervient sur une scène de drame comme ça, qu'on est à l'abri de ce syndrome de stress post-traumatique que, dans mon milieu, on abrège sous le nom anglais de PTSD, parce que c'est l'acronyme anglais. En tout cas, ce PTSD, il est observé parfois chez des gens qui, entre guillemets, dont on aurait pu penser qu'ils sont forts dans leur tête. Et ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, différents documentaires, films, séries de fiction ont montré ça. C'est-à-dire qu'en effet, les policiers, les urgentistes, etc., ont tous été marqués, évidemment, par les scènes qu'ils ont vécues. Et certains d'entre eux les ont très mal vécues, puisqu'ils ont souffert de troubles psychiatriques importants et qu'il a fallu traiter très sérieusement.
Autre résultat de l'étude qu'on pourrait mettre à disposition pour améliorer encore une fois la prise en charge des individus, il est question de ça. Je pense notamment aux récents événements en Suisse. Quelles seraient peut-être les données qui pourraient être portées?
Oui, alors merci de le dire, parce qu'effectivement, au-delà de cet épisode historique des attentats terroristes de Paris en 2015, eh bien, on peut dézoomer un petit peu et prendre un peu large et montrer qu'effectivement, ce genre d'étude permet d'améliorer la prise en charge d'autres catastrophes, d'autres tragédies, comme malheureusement ce qui s'est passé terrible à Crans-Montana.
Par exemple, d'imposer la cellule psychologique pour tous les acteurs, c'est pas dire si tu veux, t'y vas, c'est de l'imposer.
Voilà, ça, je pense que ce serait une bonne mesure, même si les personnes qui sont intervenues sur le champ et qui ont été donc confrontées à ces scènes terribles, ces scènes d'horreur d'enfants, d'adolescents qui sont morts brûlés vifs, toutes ces personnes, quelle que soit leur force de caractère, leur habitude éventuelle, doivent bénéficier d'une prise en charge, parce que on a montré que c'était le moyen d'éviter des séquelles à long terme, parce que pour reparler des attentats de Paris, 10 ans plus tard, il y a encore des personnes qui souffrent de syndrome de stress post-traumatique, avec des cauchemars, des reviviscences pénibles, des conduites d'évitement, c'est-à-dire qu'il y a certains lieux, certaines circonstances qu'on évite, parce que sinon, le traumatisme va revenir comme une espèce de boomerang absolument épouvantable pour le psychisme de ces personnes.
Quatre phases à ce programme, programme 13 novembre. Vous entamez la quatrième phase. Elle consiste en quoi?
Cette quatrième phase, elle permet de faire un quatrième point sur l'enregistrement des souvenirs des personnes qui sont portées volontaires, environ 900 personnes, en gros, qui seront revues, auront de nouveau ce questionnaire, et nous permettront de mieux assurer, de manière beaucoup plus ferme encore que ce n'est le cas, les quelques tendances fortes que nous avons pu identifier, avec notamment donc cette particularité du vocabulaire employé plutôt par les femmes que par les hommes, l'influence également de l'état de santé général, comment justement certains ont guéri en fait de leur syndrome de stress post-traumatique et d'autres ne l'ont pas fait, en souffrent toujours, quelles sont les caractéristiques dans le discours même des personnes qui permettent d'identifier un stress post-traumatique encore présent et celui pour lequel ils se sont montrés, ces personnes-là, au contraire, sont montrées résilientes, d'où le terme de la conférence du traumatisme à la résilience.
Conférence qui se tiendra au lycée agricole et agroalimentaire Beauregard, à l'amphithéâtre du lycée agricole et agroalimentaire Beauregard, vendredi prochain. Nous serons le 16 janvier. D'avance, une conférence passionnante pour une étude, encore une fois, une étude scientifique exceptionnelle, unique, longitudinale, que vous présidez au travers de l'INSERM et de vos fonctions de président du Conseil scientifique international depuis 7 ans, depuis bientôt 8 ans. Encore 2 ans, une association de victimes a été créée autour des attentats.
Il y a deux associations.
Il y en a une des deux qui a choisi d'arrêter pour les 10 ans. Dire, ah yeah, c'est derrière nous, on a envie de regarder.
Je conseille à tout le monde de regarder ou d'écouter les interviews d'Arthur Desnouveau, qui a présidé l'association Life for Paris, qui a effectivement un discours extrêmement intéressant, extrêmement élaboré, pour dire justement des choses pertinentes sur la résilience, c'est-à-dire que la résilience n'est peut-être pas le fin mot, il y a peut-être autre chose, comment c'est également finalement normal d'être toujours en colère, de ne pas vouloir non plus complètement gommer ses émotions, de laisser la liberté aux gens d'exprimer leur dépit, leur colère, parce que, eh bien, quand on a été victime d'un attentat comme ça, on peut ne pas solder les comptes si facilement. Je dis aussi que ce qui a été certainement très important, c'est le grand procès qui s'est tenu donc au tribunal de Paris, hein, on dit le V13, avec des productions, des livres qui ont été écrits, notamment celui d'Emmanuel Carrère qui s'appelle V13. Et ce procès a été très important, je pense, pour tous les acteurs de cette tragédie, et évidemment principalement les victimes.
Jacques Dayan animera cette conférence Terrorisme du traumatisme à la résilience. On l'a présenté suffisamment, Jacques Dayan. En tout cas, le programme 13 novembre, c'était essentiel de dire que se cachait derrière cet intitulé, ce programme encore une fois unique et exceptionnel, porté par la communauté scientifique. On en saura plus la semaine prochaine à l'amphithéâtre du lycée agricole et agroalimentaire Beauregard. Mais c'est pas la première actualité de l'Université des Savoirs Partagés. Vous nous proposez une causerie lundi prochain. Causerie du lundi, animée par, alors je ne sais pas s'il y a des liens en particulier, Geneviève de Monet, allergologue, aujourd'hui invitée par l'USP.
Donc effectivement, à part les conférences, il y a des causeries de l'USP. Il se trouve que mon épouse Geneviève, docteur de Monet, allergologue, présentera une causerie à l'Hôtel des Fleurines à 18h le lundi 19 janvier. Et son thème, c'est allergie et intolérance alimentaire. Et j'ai peut-être une opinion un peu biaisée, mais je pense que la conférence est intéressante. Voilà.
Merci une nouvelle fois, professeur Jean-François de Monet.
Avec plaisir.
À très bientôt dans ces studios. Le rendez-vous est pris lundi à l'Hôtel des Florines pour la première causerie du lundi et première animation de l'USP de l'année. Et vendredi 16 janvier à l'amphithéâtre Beauregard. C'est important de le dire et de le redire pour cette conférence du professeur Jacques Dayan. Terrorisme du traumatisme à la résilience. Merci. C'était le mag de ce jeudi. L'intervention sous peu en podcast sur le site cfmradio.fr et à bientôt pour une nouvelle édition du magazine d'actualité. La suite du programme dans un instant.
CFM Villefranche, le mag.